Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Violaine Sauter. Bonjour Violaine Sauter.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Violaine Sauter, vous êtes géologue, planétologue, chercheuse au CNRS, spécialiste des roches martiennes, vous me dites, hein, co-investigatrice dans le programme Curiosity, c'est-à-dire que vous analysez les données recueillies sur Mars par le robot Curiosity. Tout ça est vrai?
Oui, tout ça est vrai. C'est beaucoup de choses qu'on peut résumer à géologue terrestre et un tout petit peu extraterrestre, parce que je ne travaille pas sur toutes les planètes, mais seulement deux.
La Terre
et Mars.
Alors ça, c'est la présentation officielle. Officieusement, vos amis disent de vous que vous êtes un peu professeur tournesol. C'est vrai ou?
Alors, professeur tournesol, je suis quelqu'un d'assez intuitif, qui s'intéresse à beaucoup de choses. À l'histoire, à la géographie, je ne suis pas née géologue, je le suis devenue, alors c'est peut-être pour ça qu'ils m'appellent professeur tournesol. Je me nourris de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des choses directement liées aux sciences de la Terre et de l'univers.
Violaine Sauter, vous avez choisi comme journée particulière le 6 février 1981. Ce jour-là, vous mettez pour la première fois les pieds dans le désert du Hoggar, dans le sud de l'Algérie.
Je dois dire quand même que j'ai eu de très bons souvenirs. Je crois que partir le matin, avant que le soleil se lève, sur un cheval, et puis tout à coup, on arrive sur le Sahara, on débouche sur le Sahara, et le soleil apparaît à l'horizon, et le cheval se met à galoper. Tellement il est content. Parce que c'est magnifique le Sahara. Et c'est magnifique le soleil qui se lève. Il fait froid. Très froid. C'était magnifique. Ma montre, naturellement, j'oubliais de la remonter. Par conséquent, j'avais plus aucune heure. Je connaissais l'heure par le soleil. J'avais pas de lampe. J'écrivais aussi tard que je pouvais. Quand je pouvais plus écrire, je réfléchissais. J'ai beaucoup réfléchi. Mon bagage scientifique, c'était un stylo et des cahiers. Point final.
Violaine Sauter, c'était une archivinade 1989. C'est la voix de Germaine Tillon, de l'ethnologue résistant Germaine Tillon. Vous vous reconnaissez dans ces paroles?
Alors, je me reconnais et en même temps, je me sens toute petite parce que moi, c'est beaucoup plus prosaïque. Je suis arrivée en avion. C'était mon premier voyage en avion, mais c'était quand même aussi assez enthousiasmant puisque quand vous arrivez en avion sur Taman Rasset, vous voyez le Hoggar qui surgit des sables, d'une mer de sable, qui est une espèce d'île noire gigantesque et prodigieuse. Et c'est là que j'allais débuter ma thèse. Donc j'étais à la fois impressionnée, excitée. Et donc voilà, je suis donc arrivée en avion, ce qui m'a permis quand même de voir ce terrain de thèse de haut, ce qui était très très bien. Mais après, effectivement, je me reconnais énormément dans ce qu'elle raconte, parce que ce sont des jours passés à vivre... Moi, j'avais pas de cheval, hein. Je marchais à pied ou on était en jeep. Mais ce qui me reste un peu de ce voyage, c'est le soir, quand on se couchait, et là, on dormait à la Belle Étoile systématiquement. On n'était jamais sous tente, et ça, c'était une façon d'être en connexion... avec l'univers, parce que le désert, c'est un peu l'épiderme de la Terre, mais qui vous met vraiment en contact direct avec le ciel, et on profitait de ce ciel énormément.
Et vous aviez pour tout bagage, comme Germaine Tillon, un carnet et un stylo?
J'avais en plus un marteau, parce que je suis géologue, il faut pas l'oublier. Et je travaille sur des roches extrêmement profondes, extrêmement denses, extrêmement dures. Donc, bon, il fallait plus qu'un marteau, une masse pour pouvoir les éclater, pénétrer à l'intérieur de ces roches merveilleuses.
Alors, vous dites que c'était la première fois que vous preniez l'avion, c'était la première fois que vous alliez dans le désert. Mmh. En 1981, vous étiez une toute jeune chercheuse, Violaine Sauter, c'est ça?
Oui, j'étais dans les bégaiements, j'étais un bébé chercheur, je n'avais pas encore commencé réellement, et donc j'allais découvrir ce terrain de thèse. C'était pour moi la première fois que j'allais en Afrique, la première fois donc que j'allais en Algérie, qui est un pays extraordinaire. Et moi, j'étais à 1900 km d'Alger, parce que Tamanrasset, c'est quand même très très loin, ce qui vous donne une idée de la dimension de ce pays. J'arrivais seule, ce qui était, j'allais rejoindre la mission qui arrivait quelques jours après moi, donc c'était assez impressionnant, à peine 20 ans, être seule à Tamanrasset, qui à l'époque était une petite bourgade de 5000 âmes, alors que maintenant il y a 150 000 habitants, donc ça a bien changé.
Ça a été un choc, ce paysage?
Ce paysage, oui, bon, c'était des maisons de pierre et d'argile. Beaucoup de femmes dans les rues à l'époque, parce que c'était très matriarcal, donc qui étaient à visage découvert. Les hommes étaient à visage couvert. Les hommes étaient voilés. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, parce que c'était les Touaregs qui sont effectivement voilés, alors que les femmes, à cette époque, dans cette bourgade, étaient totalement le visage à nu. Et donc voilà, j'étais tout à fait rassurée par les hommes et les femmes, donc l'espèce humaine en général, mais par contre un peu anxieuse et dans l'appréhension du travail que j'allais devoir mener, des questions que je me posais, des réponses que je ne trouverais peut-être pas en allant sur ce terrain de thèse qui m'avait été donné.
Parce que partir dans le désert, Violaine Sauter, c'était la seule façon pour vous de faire de l'archéologie planétaire.
Oui, parce que, mais à l'époque, je le formulais pas encore de cette façon-là, mais maintenant, a posteriori, c'est facile de refaire son chemin. Effectivement, je suis géologue et je suis pétrologue. Donc, pétrologue, c'est je fais parler les pierres. Donc, faire parler les pierres, c'est décrypter un peu l'alphabet minéral qui est caché au sein des roches. Les faire parler, que les pierres nous racontent une histoire. Et moi, ce qui m'intéresse, en faisant parler ces pierres, c'est de choisir des pierres très très anciennes, très profondes, ou alors qui viennent de planètes comme Mars, et qui vont nous raconter l'enfance des planètes. C'est en ça que je fais de l'archéologie planétaire. Ce qui m'intéresse, c'est l'enfance des planètes, pas leur naissance, mais leur enfance, comment elles se sont différenciées, comment elles ont acquis la structure qu'elles ont à l'heure actuelle, comment les continents sur lesquels on vit se sont formés.
Je ne connaissais pas le mot de pétrologue.
Alors, pétrologue, oui, c'est très rugueux, moi, je trouve. C'est pas un mot très heureux, mais disons que mon métier, je vous le dis, c'est de faire parler des pierres, de rentrer dans leur intimité, donc on coupe les roches, l'épaisseur d'un papier à cigarette pour les rendre transparentes à la lumière, et on pénètre à l'intérieur d'elles, donc on voit dans le noir, on voit l'invisible grâce à ces techniques microscopiques, et en miniaturisant sa pensée, en comprenant cet alphabet minéral, on décrypte des singulières écritures qui nous amènent au début de l'histoire de la Terre.
Et des voix singulières aussi, parce que les voix des pierres peuvent être différentes. Alors, certaines pierres, enfin, toutes les pierres n'ont pas les mêmes voix.
Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que quand on arrive justement dans le Haut-Gard, vous avez un haut plateau volcanique, donc le plateau sur lequel il y a le monastère de la Sécrème, et où il y a des pierres qu'on appelle les phonolites. Ce sont des pierres qui chantent. Ce sont des roches volcaniques qui chantent. Quand on marche dessus,
elles chantent.
Tintinabule, elles résonnent. Phonolites. Comme leur nom l'indique, ce sont des pierres qui chantent. Mais les pierres que j'étudie, moi, sont plutôt muettes. C'est moi qui essaye de les faire parler.
En 1981, Violaine Sauter, on avait encore tous en tête la voix singulière de Kate Bush.
Letters, and he received them with a string.
Cette bouche, Babouchka, Violaine Sauter, ça vous rappelle des choses,
je crois. Oui, là, ça me rappelle toute ma jeunesse. Patchouli, jupon violet, grande tresse, manifestation sur le Larzac, quoi. C'est tout un pan de ma vie qui se réouvre avec cette chanson.
Alors, le 6 février 1981, c'est votre journée particulière, Violaine Sauter sur France Inter. Ce jour-là, vous mettiez donc les pieds pour la première fois dans le Hogar. Et cette passion du désert, vous la partagez avec un grand monsieur, Théodore Monod.
Le paysage saharien est très particulier parce que, enfin, il a été modelé par un climat déterminé. Mais dans l'ensemble, ce sont des paysages très beaux parce qu'ils sont très sobres. Il n'y a pas de terre proprement dite, pas de sol proprement dit. Au sens vrai du mot. C'est vraiment le squelette de la terre à vif. En surface, on voit tout. Sauf là où il y a des dunes. Là, alors le sable, quelquefois, masque des choses qu'on voudrait voir. Mais les dunes elles-mêmes sont un paysage très beau, très très beau. Et les courbes des dunes, c'est une chose tout à fait saisissante. Surtout à certaines heures de la journée, quand il y a des ombres, etc. Et puis, il n'y a pas de dunes pareilles, parce que c'est éternellement une surprise permanente quand on traverse un massif de dunes, proprement dit, qu'on approche d'un massif de dunes. Puis c'est propre aussi. Le Sahara, c'est propre. Ça ne tache pas. Et puis, c'est une terre intacte, un pays intact. C'est rare dans le monde, très rare. C'est une région sur laquelle l'homme n'a pas laissé sa marque d'une façon visible. Il n'y a pas de promoteur au Sahara, il n'y a pas de marchand de béton, c'est la terre telle qu'elle serait sans l'homme. Et bien c'est un des rares endroits dans le monde où on peut voir la terre à l'abri des technocrates.
Violaine Sauter, la terre à l'abri des technocrates, dit Théodore Monod.
Oui, il a bien raison, mais pour moi Théodore Monod, ça a été vraiment une étoile, et je suis rentrée comme chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle fascinée par ce personnage qui s'intéressait absolument à tout et puis qui était un esprit extrêmement libre.
Rebelle.
Rebelle. et écologiste avant l'heure, par exemple, et pour ne citer que ça, ou alors le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Mais ce personnage était absolument fascinant. Ce qu'il vient de dire, là, du désert, me touche beaucoup. Alors, n'en déplaise à son analyse, lui, il parle de squelette de la Terre. Moi, non. Moi, je parlerais d'épiderme. Donc, la Terre est mise à nu. Le squelette, il était lui-même très ascétique, alors il devait se projeter. Il avait que la peau sur les os. Mais pour moi, c'est pas le squelette, c'est l'épiderme qu'on voit. Donc, effectivement, dans ces lieux que sont les déserts, il n'y a pratiquement pas d'animaux, de végétaux, et pourtant ce sont des lieux chargés d'histoire, mais d'une histoire qui est c'est l'histoire de la Terre, l'histoire du système solaire à travers les météorites qu'on peut trouver dans les déserts, et l'histoire des hommes, mais l'histoire des hommes préhistoriques, donc des hommes d'il y a assez longtemps. Donc il a effectivement raison, c'est une terre non conquise par les promoteurs et par les technocrates, et effectivement... Pour cela, on s'y sent extrêmement bien, extrêmement libre.
Alors, Violaine Sauter, vous, dans le désert, vous partez à la recherche de diamants, mais pas des diamants de joaillerie, des diamants qui ont des défauts, des oui. crapauds, et ce sont eux qui parlent.
Bon, alors parlons diamants, puisque au fond, c'est le diamant votre principale occupation maintenant. Qu'est-ce qu'un diamant ?
Le diamant, comme vous le savez, c'est du carbone pur. C'est-à-dire la matière pratiquement à sa source. Il est d'origine alluvionnaire et d'origine volcanique.
Qu'est-ce qui fait la valeur du diamant ?
Ce qui fait la valeur du diamant, c'est sa rareté.
C'est une archivinade 1954. Donc c'était un joaillier.
Rigolote.
Qui parle, rigolote. Mais c'est, vous, c'est rare ce que vous cherchez ? C'est-à-dire que même les diamants impurs, les crapauds des diamants, c'est rare ?
Mais oui, parce que le diamant est rare. Mais si vous voulez, moi, je cherche les diamants, mais aussi et surtout ses compagnons de voyage. C'est-à-dire que le diamant, en fait, donc pour nous, géologues, pourquoi il nous intéresse ? C'est qu'il nous renseigne sur les entrailles, sur le cœur caché de la Terre. Cœur qu'on ne peut pas atteindre, puisque je vous le rappelle, si vous ne savez pas que la Terre est un peu structurée comme un œuf,
ouais.
avec la coquille qui est la croûte sur laquelle on vit, qui fait 1% du volume de la Terre, mais qui pourtant nous cache tout, puisqu'elle fait une quarantaine de kilomètres d'épaisseur. Le blanc d'œuf, qui est le manteau de la Terre, qui est une énorme bouée de 3000 kilomètres d'épaisseur, donc c'est, mais qui est solide et qui est fait d'un minéral absolument superbe, qui est le péridot, qui est un minéral vert-olive, et de grenat rouge, donc c'est un merveilleux vitrail vert et rouge. Et enfin, à l'intérieur, le jaune d'œuf, qui est le noyau, qui est du fer liquide et solide, auquel jaune. On n'a pas accès. Jaune, enfin, il faut imaginer une forge, hein, donc
oui.
Voilà, donc c'est la couleur de la forge, si tant est qu'on puisse avoir une lunette qui nous permette de regarder le noyau de la Terre. Donc voilà, et si vous voulez, donc ce qui nous intéresse, nous, ce sont les entrailles de la Terre, voyager vers le centre de la Terre, donc aller dans le manteau terrestre, ça veut dire qu'il faut déjà dépasser la croûte, donc aller à plus de 40 km de profondeur, et après on essaye d'aller de plus en plus profondément. Enfin je dis on ne peut pas, puisque les forages humains c'est 12 km, donc c'est une égratignure sur le visage de la Terre.
Alors comment
donc
vous faites,
en fait ce sont les volcans qui viennent à notre rescousse et qui, comme des sarbacanes, des volcans racines extrêmement profondes, vont nous cracher des copeaux de roches profondes, donc cette péridotite, faire de ce vitrail vert et rouge. Et dans ces crachats volcaniques, si vous voulez, ces morceaux de terre solide que les volcans ont pris au lieu de leur naissance dans ce blanc d'œuf qui est le manteau terrestre, poussent les diamants. Parce que le diamant, c'est le graphite de votre mine de crayon, mais que vous avez mis à une pression gigantesque et qui se transforme en diamant. Et pour ce faire, il faut donc des pressions qui dépassent 50 000 fois, voire beaucoup plus, la pression atmosphérique, donc aller à plus de 150 km de profondeur. Et ces volcans, eux, sont enracinés entre 150 et 200 km de profondeur et vont nous cracher ces copeaux de roches qui sont les péridotites du manteau et des diamants. Et donc voilà, donc si vous voulez, les diamants, comme ces roches vertes nous permettent de faire ce voyage à l'intérieur de la Terre qu'on ne pourrait pas faire autrement. Il se trouve que le diamant, en plus, il a une particularité, c'est qu'il pousse très vite. Donc, il va englober tout ce qu'il y a autour de lui et n'être englobé par personne. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de capsule. Il va renfermer des minéraux de la Terre profonde auxquels on n'aurait pas accès autrement. Donc, c'est ces crapauds, des diamants qu'on ausculte pour essayer de reconstituer les chairs minérales profonde de la Terre auquel on n'a pas accès par d'autres moyens.
Ce qui est formidable en vous écoutant, Violaine Sauter, c'est que vous parlez de chair, vous parlez d'épiderme. Vous êtes en train de me dire que le minéral n'est pas du tout figé, que le minéral parle, se transforme,
change
de couleur.
Oui, mais alors justement parce que pour moi, la Terre, pour tous les géologues que nous sommes, est une planète bien vivante. Donc elle est agitée par la tectonique des plaques qui va restructurer sans cesse son visage en surface, qui d'ailleurs fait qu'elle perd une grande partie de sa mémoire. Donc j'aime assez la voir effectivement comme un organisme qui vivrait, mais à une autre échelle de temps que la nôtre. C'est comme quand vous êtes dans le TGV, vous regardez une voiture. La voiture est à l'arrêt parce qu'elle va pas vite. Vous allez très vite. Donc voilà, l'image vaut pour les hommes que nous sommes qui voyons une voiture à l'arrêt.
De tout temps, les hommes ont eu le désir d'aller au centre de la Terre. Là, j'imagine ces volcans qui surgissent des entrailles de la Terre. Les hommes ont toujours voulu aller voir, aller voyager au cœur de la Terre. Ils ont échafaudé des scénarios les plus farfelus les uns que les autres, les plus fous. Et là, j'avais un monsieur en 1965 qui se disait un inventeur, monsieur Drouet, qui a eu son idée à lui pour voyager au centre de la Terre.
Monsieur Drouet, à part vos travaux, vos réflexions sur un projet de soucoupe volante, est-ce que vous avez d'autres problèmes qui vous ont tracassé?
Oui, alors là, je vais vous parler du problème inverse, alors, le voyage au centre de la Terre.
Ah.
Oui, parce que c'est la seule chose que l'on n'ait pas encore empruntée à Jules Verne. On a tout essayé de Jules Verne, sauf son voyage au centre de la Terre. Pourtant, ça mériterait. Et c'est plus facilement réalisable, puisque nous y sommes sur cette Terre. C'est plus facilement réalisable d'explorer notre planète que d'explorer la planète Mars, ou même la Lune. J'ai trouvé une piste toute tracée pour attaquer le voyage au centre de la Terre de la façon que je le conçois. Et ce serait confortable, vous promets. Moi, je descendrai vers le centre de la Terre en métro, confortablement dans un train du métro. C'est aussi en métro que les visiteurs seraient admis à descendre vers le centre de la Terre. On fera des découvertes fort intéressantes bien avant que d'atteindre, ou même d'approcher du centre de la Terre, parce que le centre de la Terre est inabordable. Je ne dirais pas que nous entreprenons un voyage au centre de la Terre. J'intitulerai ceci « Vers le centre de la Terre », très modestement.
Monsieur Drouet, donc en 1965, alors là on a un peu réduit sa pensée, mais il avait toute une théorie, c'est-à-dire que le métro avec des cylindres, des flux de l'eau, enfin bref, on s'approchait du centre de la Terre. Et je me disais, Violaine Sauter, vous êtes certainement, vos recherches se nourrissent du désir des hommes de voyager au cœur de la Terre.
Alors oui, mais ça se nourrit effectivement du même désir, mais moi je partagerais pas le même métro que lui, bien que j'adore le métro parisien, je n'irais sûrement pas dans le métro avec lui, parce que voilà, on serait transformé en bouillie, parce qu'il fait fi de la pression qui règne à mesure quand on s'engouffre à l'intérieur. Si on pouvait s'engouffrer à l'intérieur de la Terre, vous avez une pression absolument gigantesque au-dessus de votre tête. Imaginez déjà, rien que quand vous allez sous l'eau, le poids de la colonne d'eau qui presse vos poumons. Imaginez le poids d'une même colonne de roche, et encore l'eau, c'est quelques dizaines de mètres de profondeur. Là, des kilomètres de roche, c'est absolument invivable. 50 000 fois la pression atmosphérique au démarrage, bon voilà, c'est de la folie pure à 150 km de profondeur. Donc voilà. Par contre, moi j'aime l'imaginaire Et si on ne peut pas y aller, eh ben, imaginons, mais un imaginaire nourri par des données scientifiques, puisque si vous voulez, on ne peut pas voyager à l'intérieur de la Terre, mais les ondes sismiques le font à notre place et font une véritable échographie de la Terre. Comme vous ne percez pas le ventre de la femme enceinte pour voir le bébé qu'il y a dedans, ben là, vous ne percez pas la Terre, vous n'y rentrez pas. C'est les ondes qui vous racontent ce qu'elles voient. Et donc, les ondes sismiques nous ont fait un portrait absolument superbe de l'intérieur de la Terre. Donc ça, c'est la première étape. Après, ces roches dont je vous parle, qui permettent de miniaturiser notre pensée, ces expériences en laboratoire qui permettent de reproduire le tissu minéral profond de la Terre et de ses entrailles. Donc voilà, le voyage, on le fait comme ça, et c'est déjà superbe.
Françoise Hardy chantait Le Martien. Vous connaissiez cette chanson?
À vrai dire, non. Mais je la trouve superbe.
Elle est belle.
Ah ouais, ouais, superbe.
On a envie de partir avec elle et d'attendre ce Martien qui viendra la chercher.
Je ne partage pas les mêmes désirs, mais j'adore la chanson.
Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la suite de la journée particulière de la géologue et planétologue Violaine Sauter. Pendant des années, vous avez donc arpenté les déserts de la planète.
Oui.
À la recherche des crapauds, des diamants. Et puis un jour, vous avez changé de destination. Vous avez levé les yeux au ciel, destination la planète rouge. Et vous êtes aujourd'hui, Violaine Sauter, co-investigatrice du laser ChemCam, fixé au sommet du mât du robot Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012, c'est ça?
Tout à fait, mais en fait, cette quête est aussi passée par les déserts, parce qu'en fait, moi, ma curiosité pour Mars, n'étant pas astronome ni astrophysicienne, est née de l'analyse des météorites martiennes qu'on trouve dans les déserts. Donc, si vous voulez, les déserts, c'est des réceptacles. On y trouve des cailloux d'origine très profonde, mais on y trouve aussi énormément de cailloux qui viennent de l'espace. Non pas qu'il y ait plus, comment dirais-je, de météorites qui tombent dans les déserts que sur Paris, par exemple. Non, c'est pas ça la question en zone tempérée. C'est que le désert a ceci d'extraordinaire que le climat y est très sec et donc il conserve les roches. Et donc les roches qui viennent de Mars ou de la ceinture d'astéroïdes et qu'on appelle les météorites et qui, en rentrant dans l'atmosphère, chauffent extrêmement brutalement et donc brûlent et fondent sur leur périphérie, donc ce qui les emballe dans une espèce de coquille de verre fondu, et qui est le diagnostic qui nous permet de reconnaître les météorites. Donc les météorites, on les chasse, entre guillemets, je n'aime pas bien le terme, mais on les recherche dans les déserts. Donc c'est aussi par cet aspect-là qu'est venu mon intérêt pour la planète Mars, en auscultant des météorites martiennes qu'on avait notamment au laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle.
Mais là, aujourd'hui, vous analysez les prélèvements que fait le robot Curiosity sur la planète Mars, à 45 millions de kilomètres de nous, c'est ça?
Oui, alors si vous voulez, en fait, on m'a embarqué dans cette mission, c'était un peu improbable parce que, je vous le répète, je ne suis pas astronome ni astrophysicienne, mais j'avais une expertise sur les roches martiennes qui me venait d'études de météorites martiennes.
Alors je voulais qu'on revienne sur cette fabuleuse histoire du robot Curiosity. C'était le 5 août 2012, le robot atterrissait ce jour-là sur la planète Mars.
Expecting bridal cut shortly.
Tango Delta, you remain strong.
Tango Delta nominal. Oh.
Yep. You deal calm. Configure.
Rim is stable.
UHF telemetry.
Rim is stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us.
Les larmes et les cris de joie dans la salle de contrôle de la NASA à Pasadena en Californie pour cet atterrissage sur Mars, donc le 5 août 2012. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'était un miracle quasiment cet atterrissage. C'était une prouesse technologique en tout
oui,
cas.
Oui, alors parlons de prouesse technologique. Moi, j'aime pas tellement les miracles, mais effectivement, c'est absolument extraordinaire de débarquer ainsi comme une fleur sur la planète Mars, sachant que tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire un décollage qui est pas forcément simple, 9 mois de voyage dans des conditions incroyables et 7 minutes d'atterrissage. Donc là, vous entendez ces cris de joie des ingénieurs. Et moi, j'étais à l'atterrissage avec mes collègues de l'IRAP, donc du laboratoire de Toulouse, qui a mis au point le laser CAMCAM. Et ces gens-là ont travaillé plus de 10 ans, donné plus de 10 ans de leur vie pour miniaturiser ce laser, ce qui était une première quand même spatiale. Il n'y avait jamais eu de laser comme ça envoyé dans l'espace pour analyser les roches. Donc mettez-vous à leur place, on se serait scratché à l'atterrissage. Ce qui arrive bien souvent, c'était 10 années de foutu. Donc moi, je suis plus touriste, on va dire, parce que bon, moi effectivement,
Mais vous l'avez vécu ce moment-là.
Mais j'ai vécu ce moment avec eux et j'en ai tiré énormément profit une fois qu'on a atterri sur Mars en analysant les roches martiennes. Mais c'est tout le défi de ces missions de haute technologie qui implique des chercheurs, des ingénieurs qui travaillent pendant des années, alors que tout peut s'arrêter en l'espace de quelques secondes.
Oui, parce que c'est les derniers kilomètres, hein, les
oui,
derniers 100 kilomètres
est très, très,
qui étaient
complexe,
très dangereux.
Parce qu'on arrive avec une vitesse absolument faramineuse, avec une atmosphère qui est beaucoup moins, qui est assez ténue, qui est beaucoup moins dense que l'atmosphère terrestre. Du coup, vous êtes peu freiné, donc il va falloir freiner votre véhicule de descente avec des parachutes supersoniques, des rétrofusées, c'est hyper compliqué. Et après, vous déposez un robot qui fait près d'une tonne, avec une espèce de grue volante au bout de 4 filins métalliques, c'est complètement improbable comme atterrissage, et pourtant ça a marché.
Et qu'est-ce que vous avez découvert, Violaine Sauter, avec ces prélèvements faits par le robot Curiosity sur Mars?
Alors, si vous voulez, moi, ce que je disais en début d'émission, je m'intéresse à l'archéologie planétaire, je m'intéresse à l'enfance des planètes, et en fait, je m'intéresse plus particulièrement à la façon dont la coquille d'œuf sur lequel on vit se forme, c'est-à-dire la croûte. Or, si vous voulez, sur Terre, on a deux types de croûte, ce qu'il y a au fond des océans, qui est en basalte, et ce qu'il y a sur les continents, les granites sur lesquels on vit, qui sont plus légers, qui flottent, entre guillemets, sur la croûte océanique. Moi, ce qui m'intéresse, c'était de voir sur Mars, parce que sur Mars, on pensait qu'il n'y avait que de la croûte basaltique océanique, et est-ce qu'il pouvait y avoir aussi des continents ? Or, Mars est une planète complètement dichotomique avec des hauts reliefs dans l'hémisphère sud et des bas reliefs dans l'hémisphère nord. Comme la Lune, il y a une face cachée et une face visible. La face visible, vous avez des mers lunaires et la face cachée, vous avez des espèces de continents lunaires. Et donc, voilà, il y a cette dichotomie haut relief, bas relief. Sur Terre, ça correspond à des océans avec des planchers basaltiques et des continents granitiques. Et donc, sur Mars, il y avait des hauts reliefs. Il y a toujours des hauts reliefs et des bas reliefs. Et on se demandait si dans les hauts reliefs, il n'y avait pas autre chose que du basalte. Parce qu'on pensait que c'était que du basalte. Et comme sur Terre, effectivement, on voit des noyaux de roches granitiques légères, comme les continents terrestres. Donc, c'était ça, la découverte, sachant qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver ces roches claires. On pensait qu'il n'y avait que des roches sombres type basalte sur Mars.
Mais avec le robot Curiosity, on croyait découvrir Mars et finalement, ce qu'on a découvert, c'est la Terre, Violaine Sauter.
Oui, on le dit souvent parce qu'effectivement, mon Curiosity, il a plusieurs objectifs. Il foule avec ses roues des terrains qui n'existent plus sur Terre. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, si vous voyez l'histoire des planètes comme un livre de 100 pages, il nous manque les 10 premières pages sur Terre. Et Mars, justement, nous permet d'avoir accès à ces 10 premières pages.
Parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques.
Parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques, exactement. Donc, Mars, ce sont les archives perdues de la Terre. Vous pouvez lire le passé perdu de la Terre dans ces terrains anciens martiens sur lesquels le robot atterrit. Donc, il y a plein d'avantages. C'est qu'on peut y comprendre comment naissent les continents. Mais la grosse question, c'est comment apparaît le vivant, comment apparaît la vie. Sur Terre, on sait que la vie est apparue dans des temps très très anciens, mais on n'a plus les traces de ce point de départ. Or, sur Mars, les terrains équivalents sont pléthoriques. C'est plus de 60% de la surface de la planète Mars.
Donc on pourrait connaître l'origine de la vie.
C'est une des quêtes essentielles des missions martiennes, c'est ça. Donc déjà voir si la planète est habitable, ce que le robot Curiosity a montré, c'est-à-dire s'il y a eu l'eau liquide qui coulait dans ces temps très très anciens, il n'y en a plus maintenant, mais on a montré qu'il y en avait eu, que c'était de l'eau potable, douce et pas saline, etc. Maintenant, habitable ne veut pas dire habité. Est-ce que Mars a été habité? Ça, c'est une autre question. Et c'est l'enjeu de la mission actuelle, mais surtout de la prochaine mission Mars 2020, qui part donc en juillet 2020, avec à nouveau à son bord une espèce d'instrument éclaireur qui, là, est pas ChemCam, mais SuperCam, qui est un ChemCam survitaminé, qui est créé par la même équipe de chercheurs à l'IRAP. Ouais. Oui, c'est un laser extrêmement, beaucoup plus complexe cette fois-ci, déjà que celui qui travaille l'est, celui-là le sera encore plus. Et son objectif sera justement d'essayer de trouver de ces traces de matière organique qui pourraient être les précurseurs du vivant.
Alors moi, en préparant cette émission, Violaine Sauter, j'ai réfléchi, Mars. Et je me suis rappelé que dans mon enfance, on parlait sans arrêt des Martiens. Oui. C'était une figure importante de notre enfance.
Oui.
Et on se posait la question de l'existence des petits hommes verts.
Oui.
C'est vrai, hein, rappelez-vous.
Oui, mais c'est sûr qu'on en parlait beaucoup. Donc maintenant, on en parle moins parce qu'il y a eu beaucoup de missions spatiales en 30-40 ans depuis. Donc effectivement... Mais ça se saurait, donc on n'en parle plus, effectivement.
On n'en parle plus. Mais pourtant, des chanteurs en ont parlé et sont imaginés interviewer des Martiens. Vous voyez à quoi je fais allusion, Violaine Sauter? À Salvador. Henri Salvador.
Henri Salvador. Ah bah non, alors là, moi, j'étais pas sur Salvador.
Alors écoutez.
Mesdames et messieurs, voici la première interview que j'ai eue avec un homme de Mars. Il vient de descendre de sa soucoupe volante. Et voici mes premières questions. Monsieur, vous arrivez de la planète Mars. Pouvez-vous nous dire en quelle saison vous êtes parti en direction de notre planète ?
Il
je traduis. Ils sont partis au printemps et ce voyage leur a pris 269 jours. Est-ce que vous êtes un commando ou une délégation officielle ou êtes-vous déjà venu à notre insu sur Terre? Ils sont déjà venus en observation depuis plusieurs années, comme me l'expliquait monsieur. Et maintenant, nous allons pouvoir faire des échanges interplanétaires.
Voilà, Violaine Sauter. Ah, ça vous fait rire. Ah bah oui, on est très contents que ça vous fasse rire. On a un peu hésité à vous faire écouter ça, mais bon, voilà.
C'est très drôle parce que si on était tous sur Mars, on aurait la voix extrêmement grave parce que l'atmosphère est très ténue, donc ça favorise les sons graves. Mais là, c'est trop drôle, quoi.
En tout cas, l'année 2020 sera celle de Mars. 4 missions partent sur Mars. Une mission américaine, une mission russo-européenne, une mission chinoise et une mission émiratie.
Oui.
Et l'avenir semble être à la conquête de Mars.
Je pense que l'avenir, c'est la conquête de Mars.
Une mission habitée vers Mars n'a de sens que dans une logique de colonisation. Ceux qui partiront devront y vivre. Pour moi, ces hommes devront être des aventuriers prêts à prendre des risques pour y arriver. J'ignore si Mars en vaut la peine, ça reste à voir. Mais l'expansion humaine nécessite une prise de risque. Et c'est ce qui rend la vie passionnante.
Violaine Sauter, c'est un extrait du documentaire La conquête de l'espace qui a été diffusé sur Arte cet été. Et c'est l'astronaute américain Bill Anders qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'envoyer des hommes sur Mars et cette idée de la conquête, de la colonisation?
Déjà, le mot colonisation me fait froid dans le dos, plus que tout ce qui... Non, ça me fait carrément froid dans le dos, quoi, parce que les scientifiques, on va sur Mars pour effectivement, ce que je vous disais, comprendre la Terre et faire avancer la connaissance. On n'y va pas pour la terraformer, c'est-à-dire pour la coloniser et transformer justement cette espèce de laboratoire qui nous raconte l'histoire des planètes et l'histoire du système solaire. Donc voilà, et puis cet esprit de conquête est terrifiant parce qu'effectivement... C'est s'échapper d'une terre qu'on est en train de démolir et ça sera quelques happy few de milliardaires qui partiront. De toute façon, je les plains pas. Moi, j'irai jamais là-bas et si finalement on peut envoyer quelques milliardaires là-bas, y mourir, se faire irradier, bah finalement, c'est peut-être une solution.
Oh bah dites donc, Violaine Sauter, oui, parce que la vie sur Mars, faut pas croire. Ça, pour les colons, les premiers colons qui iront, ce sera terriblement difficile. Vous avez écrit un long article là-dessus, très intéressant. Oui. Donc, on est irradié, il y a rien, il faudra planter, faire des serres, il y a pas d'oxygène, voilà, enfin, c'est atroce.
Il y a pas d'eau liquide, donc il faut vraiment... Et puis, il faut supporter avec 5 ou 6 personnes... Pourtant, je suis d'un naturel calme, mais je ne me vois pas vivre avec 6 personnes en espace fermé, en milieu clos. Parce qu'une fois qu'on est là-bas, il faut attendre la prochaine fenêtre de tir. Donc, il faut attendre 2 ans avant de rentrer. Donc, déjà, vous avez passé 6 mois dans un voyage interplanétaire à vous faire irradier par les rayonnements solaires. C'est terrible, quoi. Et vous arrivez sur cette planète. En plus, la gravité est quand même beaucoup moins forte. Donc, déjà, vous voyez Thomas Pesquet qui est complètement guimauve quand on le fait descendre de sa mission dans la station spatiale internationale. Mais il a des gens pour le prendre dans ses bras quand il arrive sur Terre. Là, vous arrivez sur Mars avec les os complètement ratatinés, les muscles atrophiés. Il n'y a personne pour vous prendre dans les bras, quoi. Et puis après, vous vivez. Circuit fermé pendant 2 ans dans un milieu hostile. Non, c'est très bien pour envoyer des gens qu'on n'a pas envie de voir sur Terre. Même moi, j'irai pas.
Alors plutôt même voir, profiter de savoir tout ça sur Mars pour s'émerveiller et célébrer notre Terre à nous.
Ah ben oui, parce que je pense que les images qu'on a de la Station Spatiale Internationale montrent quand même que la planète bleue, qui est la nôtre, est absolument merveilleuse et que cette espèce de vaisseau spatial solitaire dans la nuit noire est à préserver. Quand on voit Mars, qui est comme un univers, qui est un glaçon, qui est un univers hostile et totalement irradié, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, on est bien chez nous, sauf qu'il faut faire... prendre la mesure de la fragilité de notre planète. Il ne faut pas oublier que Mars est dans la zone habitable. Ça veut dire qu'elle est à une distance du Soleil comme la Terre pour avoir de l'eau liquide, mais elle n'en a plus. Donc elle l'a perdue. Donc ça peut aussi nous arriver à nous, si on le sait, pour différentes raisons, arrêt du champ magnétique. Et aussi, c'est une plus petite planète, donc la gravité est moins forte, donc elle a du mal à retenir son atmosphère.
Et ça aurait pu nous arriver, ça pourrait nous arriver.
Ben, disons que nous, on est plutôt pas dans le sens de perte de l'atmosphère, mais plutôt dans le sens d'un effet de serre, donc d'une atmosphère plus vénusienne, on n'en est pas encore là. Donc plus que de la perdre, c'est plutôt de la densifier, donc de réchauffer la planète à un point que la vie sur Terre devienne un jour impossible.
Donc prendre conscience de notre fragilité, de cette beauté.
Tout à fait, de cet équilibre fragile, et donc de prendre la mesure de la fragilité de l'endroit où on est, plutôt d'aller conquérir des terres voisines comme Mars.
How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear.
Une journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Violaine Sauter, vous notez tout dans des petits carnets depuis des années. Pour chaque année, un carnet.
Oui, hein? Oui.
Et vous notez vos lectures, vos sorties, les événements importants. Est-ce que vous avez noté que le 6 février 1980, donc votre journée particulière, la chanson numéro 1 au hit parade en France, c'était ça?
I didn't realize that my life would change forever.
Saw you standing. Violaine Sauter, vous avez noté dans vos carnets que vous aviez vu la boum.
Non. Non, non, j'ai noté la femme d'à côté de Truffaut, mais pas la boum.
Ah, alors on va écouter la femme d'à côté.
Oh là là, là, regarde. Quel chantier.
Tu avais presque la même quand je t'ai connue.
Ah, non, elle était plus courte.
Non, parce que t'étais plus petite.
Mais non, idiot, c'était la mode qui était plus courte. Je suis certaine que tu te souviens même pas de notre première rencontre.
Bien sûr que si. C'était un goûter d'enfant donné par ta marraine. J'arrivais par le fond du jardin, je te voyais à l'intérieur de la maison, par l'encadrement de la fenêtre. T'étais en train de couper des tartines pour les enfants. C'est même à cause de ça que j'ai été tout de suite amoureux de toi. Immédiatement. Tchac.
Et ensuite, pour me dire que tu m'aimais, tu n'as rien trouvé mieux que de te saouler la gueule. Et tu disais, mais non, Mathilde, je ne suis pas ivre. La meilleure preuve, c'est la rigueur de mon raisonnement. Et tu raisonnais, et tu raisonnais. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour m'embrasser?
Violaine Sauter, vous avez reconnu Fanny Ardant.
Bien sûr.
Gérard Depardieu.
Bien sûr. Ah oui, moi je suis complètement fascinée, toujours encore maintenant, par Fanny Ardant notamment, parce qu'il y a un truc que j'adore chez elle, c'est qu'il y a un décalage qu'on sent peut-être pas forcément là entre le son et l'image. Et donc en fait, elle donne une image, on la voit elle, et sa voix est toujours un petit peu décalée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Comme vous savez que la vitesse du son et la lumière, ça ne va pas à la même vitesse, la lumière va plus vite. Donc elle vous éblouit, puis il y a ce petit décalage, et puis... Entre-temps, il y a une espèce de trou de pensée ou un truc comme ça. Vous... Et elle est extraordinaire. Pour moi, c'est une comédienne que je trouve très étrange, mais que j'adore.
En 1981, Violaine Sauter, vous avez consigné dans vos carnets de notes la mort du psychanalyste Jacques Lacan.
Précisément, c'est à la lecture de Freud que reste actuellement suspendue la question de savoir si la psychanalyse est une science. Ou, soyons modestes, peut apporter à la science une contribution. Ou bien, si sa praxis n'a aucun des privilèges de rigueur dont elle se targue pour prétendre lever la mauvaise note d'empirisme qui a déconsidéré de toujours les données comme les résultats des psychothérapies. Pour justifier aussi le très lourd appareil qu'elle emploie au défi, semble-t-il, parfois, et de son aveu même, du rendement mesurable.
Il vous fait rire, Violaine Sauter.
Ah, moi, Jacques Lacan me fait hurler de rire, mais hurler de rire.
Alors,
je ne sais pas. C'est-à-dire, quand il parle, soit je comprends rien, soit je comprends tout. Et alors, cette espèce de mélange, c'est un chaman du verbe, il est extraordinaire. Et alors, il y a un truc dont je me souviendrai toujours, je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, il vous regarde, c'était une émission de télévision, droit dans les yeux. Et il vous dit, avec un air goguenard, je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que la vérité tient du réel. Ça, c'est génial, moi, je trouve.
Ça, c'est génial.
Et donc, pour moi, c'est quelqu'un d'assez incompréhensiblement lumineux. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il me fait rire. Il me fait rire énormément.
Violaine Sauter, c'est vrai que par moments, vous comparez votre métier à celui d'un psychanalyste ?
Le raisonnement, c'est-à-dire je pense à l'envers. C'est peut-être ça. C'est-à-dire je pars d'un état actuel et j'essaye de remonter à une source pour essayer de comprendre l'enfance des planètes. Après, le petit théâtre personnel, votre enfance personnelle passant par vous-même, c'est un autre exercice. Mais c'était le point commun, c'est penser à l'envers.
Penser à l'envers. Et est-ce que, alors, tout à l'heure, vous disiez que vous cherchiez à écrire les 10 premières pages du roman de la Terre,
oui,
de l'histoire de la Terre,
oui,
et vous êtes en train de les écrire ?
Ben, j'essaye.
Vous avancez ?
J'avance lentement. Je suis géologue, donc j'ai une perception du temps qui n'est peut-être pas celle des biologistes. Oui, j'avance.
Vous allez les écrire ?
Oui, mais bon, enfin, ça peut rester dans des tiroirs. Hein.
Ben pourquoi ?
Tant que ce n'est pas écrit, ça n'existe pas réellement.
Mais vous l'avez pensé, vous êtes en train de penser ces 10 premières pages.
Oui, oui, oui.
Ça s'affine.
Oui, ça s'affine avec le temps, avec l'âge, la maturité.
Merci Violaine Sauter d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant de vous écouter. C'était une journée particulière. Une émission préparée génialement par Hugo Combes et aussi par Maud Ventura. À la réalisation, Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui, Clément Berman. N'oubliez pas, mais vous le savez, que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. À la semaine prochaine.